Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Alors nous avons laissé Gertrude Bell, à Bagdad. Elle y rencontre quelques notables et direction Mossoul. Et comme d'habitude, elle part en Angleterre, après ça, retrouver la maison familiale et écrire des livres sur les archéologues qu'elle a rencontrés. Elle écrit aussi pour le journal The Times. Alors, c'est maintenant à la Turquie d'Asie qu'elle s'intéresse. Et aussi à un monsieur, Richard Doughty Willey, qui est soldat et haut fonctionnaire, bardé de décorations, érudit, sensible, un analyste politique très perspicace. Alors elle l'invite dans la maison familiale alors que sa femme est absente. Et un éclair entre les deux, mais elle se refuse à lui. Alors ça n'empêche pas une correspondance absolument passionnée. Et lui, il dit que tant qu'il sera marié, il n'est pas question d'autre chose. Et la voilà repartie pour l'Arabie. Ce qu'elle emporte est, comme d'habitude, énorme. Ça va depuis des robes griffées, je vous rappelle qu'elle est d'une famille fort riche, hein, à de la quinine. Elle rend visite au cheikh Muhammad Bassam. Ils discutent en arabe, qui chez Gertrude, c'est classique, un arabe tout à fait classique et tout à fait fleuri. La discussion en arrive à ses projets de la traversée du désert. Elle veut absolument rencontrer deux hommes dont je vous ai déjà parlé, deux cheikhs, Imd Rachid et Imd Saoud, deux messieurs qui ne se supportent pas. Bassam, lui, affirme qu'elle peut tranquillement aller dans le Nebjed. La guerre entre les deux est, paraît-il, terminée. Elle fait des éclats dans le souk parce qu'elle veut tout acheter. Elle embauche un chamelier qui en même temps va lui servir de guide, Muhammad Mouravi, qui lui a été recommandé par Bassam. Elle part, je rappelle, sans l'autorisation des Turcs qui pour l'instant ont la mainmise sur les Arabes. Je dis pour l'instant, vous allez voir la suite. Elle a avec elle trois chameliers, un cuisinier et puis son guide. Au premier arrêt, elle s'aperçoit que son cuisinier ne sait même pas préparer un œuf à la coque. Il quitte les montagnes noires pour les plaines sableuses et arrive au Djebel Druze. Soudain, il se retrouve entouré par une douzaine de druzes menaçants, exigeant leurs armes et frappant les chameaux pour les faire s'agenouiller. Gertrude, elle voit sa dernière heure arriver. Subitement, l'un des druzes reconnaît Muhammad et Ali. Alors tout s'arrête. Gertrude alors les invite à prendre le café sous sa tente. Et on leur rend tout ce qu'on leur avait confisqué. Eh bien, elle donne un généreux bakhchich. Ils s'en souviendront. La nouvelle année 1914 lui réserve une mauvaise surprise. La réserve d'eau est insuffisante pour qu'elle prenne un bain. Or, partout, elle se transporte avec sa baignoire. Couverte de poussière, elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais s'en débarrasser. Cependant, elle est tout à fait satisfaite de son séjour dans le désert parce que ses études archéologiques ont bien avancé. Elle a pris beaucoup de photos, elle a fait des relevés concernant un château important. Elle les destine à la Société royale de géographie. Mais je peux vous dire tout de suite que ça servira aussi au gouvernement plus tard. Elle a déjà parcouru 500 kilomètres et tout à coup, son campement est entouré de gens armés. Le gouvernement turc a entendu parler de son entreprise. Alors les armes sont confisquées et on lui demande de vider les lieux. Elle se réfugie alors dans une propriété agricole que possèdent des amis chrétiens à 3 heures de route. Les voilà à l'abri. Elle a toujours l'idée de rencontrer Ibn Saoud. Donc elle repart. Elle passe à Bagdad. Gertrude visite à ce moment-là le consul britannique. Des tas de lettres l'attendent, dont une de Dick. Dick, c'est le monsieur qu'elle a rencontré et qu'elle aime, et qu'il l'aime aussi. Elle revend ses chameaux, elle rencontre des notables locaux, toujours des Arabes bien sûr, hein, et elle arrange la suite de son voyage. Le nouveau consul, le colonel Ramsay, ne lui est absolument d'aucune aide. Elle dit qu'il est inculte, qu'il passe la moitié de sa journée à dormir et l'autre moitié à jouer aux cartes. Il ne comprend rien à la Turquie, pas plus qu'à l'Arabie. Au début d'avril 1914, Gertrude quitte Bagdad et se dirige vers Constantinople, où elle veut rencontrer l'ambassadeur français Louis Mallet. Elle veut lui transmettre les informations précieuses qu'elle a sur l'Arabie, Ibn Rashid et Ibn Saoud. Lorsque la voyageuse arrive à Constantinople, c'est pour apprendre que ceux que l'on appelle les jeunes Turcs, en fait les jeunes Turcs ce sont des étudiants et des jeunes officiers turcs, hein, ont pris la tête du gouvernement. La Turquie, minée par la corruption, se trouve dans une très mauvaise situation économique. Elle a emprunté de l'argent à l'Allemagne, et l'Allemagne s'est montrée très généreuse, mais dans un but bien précis. La Grande-Bretagne voit d'un mauvais œil cette influence de l'Allemagne. L'Allemagne, elle veut mettre la main carrément sur la Turquie. Hein. Gertrude a entendu dire que Ibn Saoud est désireux, lui, de s'allier à l'Angleterre. Alors elle communique tout ce qu'elle sait à Louis Mallet, qui transmet au ministère des Affaires étrangères britannique. Elle rentre à Londres le 24 mai 1914. La Société royale de géographie la décore de la médaille d'or. 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand est assassiné à Sarajevo par un bosniaque. Par le jeu des alliances, c'est la guerre mondiale. Gertrude presse le gouvernement de soutenir la révolte arabe contre les Turcs et elle demande de partir. En attendant, elle va à Boulogne travailler avec la Croix-Rouge. Et voilà que Dick, son bien-aimé, rentre d'Éthiopie. Gertrude le rejoint à Londres pendant 4 jours. Elle ne devient toujours pas sa maîtresse, car dit-elle, elle a peur. Dick part à la guerre contre les Turcs, à qui Churchill l'a déclaré. Gertrude est appelée à Londres, où on lui demande de fournir des cartes de la Syrie qu'elle avait dessinées quand elle avait fait sa connaissance dans le désert. Elle est chargée de la direction de l'organisation en Grande-Bretagne. 1er mai 1915, elle apprend que Dick a été tué d'une balle dans la tête. Elle se rend chez sa sœur, où elle peut exprimer son chagrin. Pendant 2 jours, elle refuse de voir quiconque. Au Caire s'est formé un bureau d'espionnage, composé de fonctionnaires, toujours des Anglais, hein, d'archéologues, de journalistes. David Hogarth écrit à Gertrude de venir comme employée par le gouvernement. Alors elle s'embarque le 19 novembre 1915. Elle arrive au Caire le 25 novembre. Nous allons faire une première pause musicale.
ليس يدري الغير ما طعم الهوى ليس يدري الغير ما طعم الهوى إنما يدريه من ذاق الهوى Thank you.
Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel et je vous raconte la vie de l'espionne et on peut dire aussi exploratrice Gertrude Bell. Donc elle arrive au Caire le 25 novembre 1915. Elle dispose à l'hôtel Continental d'une suite. L'espionne se lance alors à corps perdu dans le travail. Ça lui plaît vraiment beaucoup. Le succès britannique dépend de l'aide arabe. Alors il faut que les services secrets parviennent à trouver les bons interlocuteurs arabes. On connaît bien les Arabes de l'Ouest et pas ceux du tout d'Irak, du Golfe ou du Nejd. Or, Gertrude est justement une spécialiste de ces régions. Elle travaille tard au recensement de toutes les tribus. Elle veut absolument arriver à rencontrer tous les cheiks de ces tribus pour les faire s'allier à la Grande-Bretagne. Tous les soirs, elle dîne avec le colonel Wright et avec quelqu'un dont vous avez sûrement entendu parler, Laurence, qu'on a surnommé après Laurence d'Arabie. Elle s'entend bien d'ailleurs avec lui. Ils viennent de milieux tout à fait différents, mais tous les deux sont des originaux, des excentriques et tout à fait à l'aise dans les solitudes du désert. Cette question d'une révolte arabe est un problème avec l'Inde. Cette dernière veut maintenir son autorité en Arabie, l'Inde qui est gouvernée par les Anglais, et annexer l'Irak. Au Caire, on entend créer un royaume arabe de l'Arabie jusqu'à l'Irak, mais bien sûr sous influence britannique. Gertrude alors est chargée d'aller à New Delhi. Elle s'embarque le 24 janvier 1916. Et son intervention est un succès. Elle écrit à son père, je vous la cite, « Il est essentiel que les Indes et l'Égypte restent en étroite relation, car elles s'occupent des deux faces d'un même problème. » Alors maintenant, elle est envoyée à Bassora. Bassora, c'est à la pointe du Golfe, près du Koweït, de l'Arabie et de la Perse. C'est un excellent poste d'écoute. Il faut rappeler qu'elle parle couramment l'arabe, ça c'est extrêmement important. La mission de Gertrude consiste à s'informer auprès des Arabes et à voir s'il y a une liaison possible entre les services britanniques au Caire et à Delhi. Alors elle arrive à Bassora le 3 mars 1916. La ville est occupée, bien sûr, par les Britanniques. Alors elle se présente au colonel Beach, qui dirige les services secrets. Il faut essayer d'avoir de bonnes relations avec les tribus arabes. Elles peuvent non seulement fournir des vivres, mais aider l'armée britannique à vaincre les Turcs, qui pour l'instant ont la main mise dessus. Mais les cheiks sont aussi tout prêts à s'allier aux Turcs qu'aux puissances de l'Entente. Il suffit de payer un peu plus. Une alliance avec les Turcs conduirait la Grande-Bretagne absolument au désastre, d'autant plus que l'Allemagne met son nez aussi dans ces affaires-là. L'un d'eux a même déclaré, si, l'un d'eux, je parle d'échec, hein, si les Britanniques m'offrent 200 000 dollars, nous venons avec eux et nous refuserons les Turcs. Sous-entendu, si les Turcs paient plus cher, on ira chez les Turcs. Les généraux britanniques méprisent les Arabes de la région. Il faut dire une chose, ils attaquent souvent les entrepôts militaires et se fichent éperdument d'aider une armée qui les regarde de haut. Les généraux qui commandent l'armée au nord de Bagdad n'apprécient pas qu'une femme vienne s'immiscer dans leurs affaires. Mais ils ont besoin d'elle, car les Anglais ne connaissent pas la région qui est faite de déserts et de marécages. Gertrude est en très bon terme avec les cheiks et les notables arabes. Avec son aide, il serait possible alors d'obtenir des cartes. Elle fait à ce moment-là la connaissance d'un couple de missionnaires américains qui vont devenir vraiment des amis proches. John, lui aussi, connaît parfaitement les villages et les tribus de la région. Elle correspond beaucoup avec sa famille et elle correspond beaucoup aussi avec Laurence. Pour l'instant, Gertrude est donc à Bassora. David Hogarth, qui est à la tête du service, envoie Laurence la récupérer et la ramener au Caire. Ben oui, il ne va pas y arriver. Et en plus, Laurence, il a une mission. Elle n'est pas jolie sa mission, mais je vous la donne quand même. L'armée anglaise est en difficulté. Alors, il faut qu'il soudoie le chef de l'armée turque avec une somme considérable. Il passe à Bassora, il dit à Gertrude de partir au Caire et lui, il se dirige vers Kout, le lieu de la bataille. En fait, Gertrude ne veut pas quitter Bassora. Elle y est libre, elle peut faire des randonnées à cheval, elle estime qu'elle y obtient de bons renseignements du cheik, elle passe beaucoup de temps à dresser des cartes. Pendant ce temps-là, Laurence est arrivé à Kout. Et qu'apprend-il une fois qu'il est arrivé à Kout? Eh bien, il apprend que l'armée anglaise a été battue, à plate couture. Plus de 13 000 Britanniques sont faits prisonniers et ils entament une marche forcée qui va les conduire presque tous à la mort. La tentative de corruption a échoué. Alors, Laurence revient à Bassora. Gertrude y est toujours. Il lui faut un remplaçant si elle s'en va au Caire. Alors Laurence dit qu'il se charge de lui trouver un successeur. Et puis le Caire, lui, a pensé à deux personnes, George Lloyd et le gouverneur des Indes, et puis à quelqu'un d'autre. Mais Lloyd ne parle pas l'arabe et l'autre n'a jamais mis les pieds en Orient. Donc le gouvernement presse Gertrude. Celle-ci répond par une analyse très prudente et tout à fait objective de la situation. Et voilà ce qu'elle dit, je vous la cite. De la part d'hommes, elle parle des Arabes, hein, qui vivent sous des tentes ou dans des cabanes de roseaux presque aussi précaires, qui n'ont jamais connu d'autre forme de contrôle que la fiction creuse de la tutelle turque, qui sont indépendants par tradition, qui ignorent tout du monde au-delà de leur marécage et de leur pâturage, qui se moquent de ses intérêts, des intérêts de ce monde et des possibilités qu'il offre, on ne peut attendre qu'ils occupent du jour au lendemain, qu'ils s'occupent du jour au lendemain, de faire le jeu des ambitions européennes ou qu'ils approuvent les méthodes européennes. Vouloir les presser est inutile. Elle voit bien les choses, hein. Il faut rappeler que Gertrude a été engagée par le gouvernement à titre officieux. Elle n'a pas de statut officiel, si bien qu'elle est vraiment regardée de haut par les autres employés. À force de lettres, avec des renseignements importants, et de réclamation, elle finit quand même par obtenir une solde qui lui permet de ne plus dépendre de la gentillesse d'amis pour être logée et pour pouvoir se nourrir. Elle reçoit alors le titre officiel de conseiller permanent de Sir Percy, rattaché au corps expéditionnaire des Indes. Elle est la seule femme conseiller politique des forces britanniques. Si l'on accepte Sir Percy, les autres employés la snobent. La chaleur est grande à Bassora. La malaria et la typhoïde font des ravages chez les employés. En septembre, Gertrude est clouée au lit par une jaunisse. Au bout d'un mois, elle reprend son travail, c'est-à-dire ses rapports, et elle sait, parce qu'on le lui a écrit, qu'ils sont extrêmement appréciés à Londres. Voilà qu'elle apprend que le chef arabe Im Saoud est en route pour Bassora. Ça, c'est épatant, elle va pouvoir le rencontrer. C'est un personnage de légende, un grand seigneur qui s'appelle Maître du désert. Il a 40 ans, il mesure 1,90 m et se déplace toujours enveloppé de longues robes blanches. Il arrive à Bassora le 26 avril 1916. D'où vient-il ? Il vient du Koweït, où il a signé un traité avec la Grande-Bretagne et il a été décoré du titre de chevalier commandant de l'Empire des Indes. On lui a promis 3000 fusils, 4 mitrailleuses, 5000 livres par mois pour ne pas attaquer le shérif Hussein, gardien de la Mecque, parce que c'est un nouvel allié de la Grande-Bretagne. L'embêtant, c'est qu'il ne l'aime pas du tout. Nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de Gertrude Bell, exploratrice et espionne, qui, à Bassora, s'apprête à rencontrer le cheikh Ibn Saoud. Donc, elle sert d'interprète. Ibn Saoud pose beaucoup de questions. Il fait des commentaires tout à fait intelligents. Alors, elle envoie à Londres, puis au Caire et à Delhi, un compte-rendu détaillé des relations entre Ibn Saoud, la Grande-Bretagne et l'Arabie. Alors, elle ne veut pas passer Noël à Bassora. Donc, elle accepte de remonter le Tigre sur un bateau avec un des employés, Sir John Filby. Ils vont jusqu'à Galate. Ils passent des heures à discuter. 1917. Gertrude est contente. Elle a un appartement, deux domestiques, mais un grand souci parce qu'elle perd ses cheveux, au point qu'elle demande à son ami Florent de lui envoyer une perruque. Elle est aussi heureuse parce qu'elle reçoit des félicitations de Londres. Son rapport sur Ibn Saoud va même être publié. Dans le courant de l'hiver, les troupes britanniques reprennent coûte et s'approchent de Bagdad. Le travail de Gertrude à Bassora est presque terminé. Le 2 mars 1917, elle écrit à ses parents que les services secrets lui ont demandé de retracer les grandes lignes de l'histoire de l'Arabie moderne. Elle est contente, mais elle regrette quand même d'être consignée à ce travail de bureau, alors qu'elle aimerait bien chevaucher dans le désert. Mars 1917, les Britanniques prennent Bagdad. Quelques jours plus tard, Gertrude est nommée secrétaire des affaires orientales. C'est vraiment le poste clé des services secrets. Elle doit se rendre à Bagdad. Alors Bagdad, c'est une ville qui a été riche, qui a eu une littérature brillante. Des mathématiciens, ce sont eux qui, à Bagdad, ont créé le zéro. Quand les Britanniques y pénètrent, eh bien, ils ne trouvent pas du tout une ville brillante. Ils trouvent une ville peuplée de sunnites et de juifs, dans des maisons misérables, dans une ville aux murs en ruine. Alors, sans attendre, ils organisent, non pas le pays, mais des courses hippiques, des compétitions de polo, des matchs de tennis. Gertrude arrive en avril, et c'est pas facile pour elle, parce que le général Maude ne veut pas de femme à Bagdad, celui qui commande l'armée, hein, et encore moins une femme travaillant pour le gouvernement. Alors, Sir Cox, qui dirige le service secret, il vient quand même à son secours. Il dit « Gertrude sera traitée comme tous les hommes du service ». Alors, quelle est l'attitude de la population devant Gertrude? Pour la majorité des Arabes, les Britanniques sont finalement un nouveau conquérant étranger. Et puis, par-dessus le marché, ils sont hérétiques. Ils veulent être gouvernés par eux-mêmes, les Arabes. Ils admirent quand même Gertrude, et c'est elle qui est chargée de recevoir tous les plaignants arabes. Elle rassemble des informations, elle fait le tri. Elle doit évaluer le pouvoir des chefs locaux et leurs liens surtout avec les Turcs. Très vite, elle adresse au ministère de la guerre des rapports détaillés sur la Turquie. Et elle déniche une maison, elle fait ajouter une cuisine et une salle de bain. Alors elle trouve que sa vie est bien agréable. Comment se passe sa journée? Eh bien, elle se lève à 6 heures du matin. Elle part à cheval en direction du désert et ensuite au travail. Elle ébauche un programme pour le gouvernement de Londres et note qu'elle veut participer activement à l'avenir de son pays. Quand elle dit son pays, c'est l'endroit où elle est, qui va s'appeler l'Irak. On lui propose de venir passer des vacances en Angleterre. Elle refuse, elle dit qu'elle a trop de travail. Elle ne veut pas quitter l'Irak. Elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle aime beaucoup le pays. Alors une armée arabe s'est quand même constituée, qui se rend maître de plusieurs villes, dont la Mecque. En janvier 1917, avec Lawrence comme conseiller politique, l'armée arabe, aidée par la flotte britannique, prend le port de Al-Wajj. Elle remporte la victoire d'Aqaba. Ce sont les amis de Gertrude. C'est la tribu Owetet du nord de l'Arabie qui mène l'attaque. Et c'est à Gertrude que l'on doit une partie du succès, parce que c'est elle qui a fourni les informations. C'est sur ces informations que Lawrence s'est appuyé pour lancer les campagnes de 1917-1918. Grâce à l'écrivain américain Lowen Thomas, Lawrence, sur son chameau, devient une célébrité. Il devient Lawrence d'Arabie. Et elle, Gertrude, eh bien elle refuse la publicité. Elle n'aime pas ça du tout, même quand elle est nommée Commander of the British Empire. À la fin de l'année, Lord Balfour déclare, alors ça, c'est, écoutez ça, à Lord Rothschild. Lord Rothschild, c'est celui qui représente les sionistes en Grande-Bretagne. Les sionistes, ce sont ceux qui veulent revenir s'établir en Palestine. Alors Lord Balfour promet un foyer national pour le peuple juif en Palestine et s'engage à ne pas attenter aux droits civils et religieux des Arabes vivant déjà en Palestine. Gertrude s'oppose violemment à ça, disant que ce sera une source d'ennui. Elle voit plus loin que leur Balfour, hein. Pour elle, c'est un projet artificiel. Gertrude, elle a maintenant 50 ans. Elle est fatiguée, pas patiente de nature, elle devient complètement irritable. Surtout, elle ne peut oublier celui qu'elle a perdu il y a 3 ans. Donc pour sa santé, elle décide d'aller passer des vacances. En Grande-Bretagne? Pas du tout. En Perse. Des troupes se préparent dans le pays du chat. le souverain perse menace de sortir de sa neutralité et de s'allier à l'Allemagne. Pensez bien que les Britanniques, alors, sont pas contents, hein. Les Britanniques, eux, voudraient maintenir la paix à la frontière, protéger les champs pétrolifères d'Abadan et la route des Indes, et surveiller un pays qui n'est pas si loin, le nouvel État bolchevique. Le ministère de la Défense a demandé que des frontières précises soient tracées. Donc pendant plusieurs semaines, Gertrude étudie les cartes de Mésopotamie et de Perse et elle décide des démarcations essentielles. À l'automne, elle est atteinte de malaria et ça dure longtemps, ça dure 3 mois. Ça ne l'empêche pas quand même de lire ses rapports. Avec l'aide de Laurence, un gouvernement arabe indépendant, avec une véritable constitution, est proclamé en Syrie, avec à la tête Faisal. Le 31 octobre, les alliés signent l'armistice avec la Turquie. Il reste qu'on ne sait pas trop quoi faire de l'Irak. Les Britanniques veulent le gouvernement avec, mais quand même, des ministres arabes. À Londres, les hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas grand-chose aux Arabes débattent de la politique à mener. Ceux qui sont sur le terrain en frissonnent. Le mieux serait d'envoyer quelqu'un de bien informé pour conseiller Londres. Et qui envoie-t-on, vous l'avez deviné bien sûr, on envoie Gertrude. Elle fait ses valises, elle ne se rend pas directement en Angleterre, elle passe par la France. Elle y arrive le 7 mars 1919. Les responsables de chacun des pays sont tous à Paris. On a là Georges Clemenceau, David Lloyd George, Woodrow Wilson, les représentants de l'Italie, de la Belgique, de la Grèce, de la Roumanie, de la Chine, du Japon, de l'Australie. Le seul pays absent, c'est la Russie. Gertrude et Laurence courent d'une conférence à une autre. Elles ne perdent pas une occasion d'expliquer à tout le monde ce que sont les Arabes. Nous allons faire une dernière pause musicale. Donc Gertrude et Laurence à Paris ne perdent pas une occasion d'expliquer ce que sont les Arabes. À l'issue de la conférence générale, on a signé des accords sur le pétrole, on a établi la Société des Nations et on a partagé les vestiges de l'Europe orientale. Mais la question arabe demeure. Au lieu de confier la Syrie et la Mésopotamie aux Français et aux Anglais, les négociateurs reportent de 2 ans le règlement du problème. Gertrude part alors en Belgique rejoindre son père, puis dans sa maison familiale du Yorkshire. Elle rencontre le gouvernement britannique, elle fait part de ses observations. Donc, il la renvoie en Orient en demandant qu'elle écrive un rapport officiel sur ce que les Arabes pensent des Français, des Britanniques, des Turcs, du sionisme et du nationalisme arabe. Au Caire, on s'est révolté contre les Britanniques. L'armée en est venue à bout, mais on sent bien qu'il y a de la violence dans la ville. Elle se dirige maintenant vers la Palestine. La question qui préoccupe tout le monde, c'est le sionisme. Les juifs polonais et russes sont déjà là. Un groupe d'antisionisme alors se forme. Très visionnaire, Gertrude écrit. Nous semons, c'est curieux comme elle a bien vu les choses, hein. Donc je vous lis sa lettre. Nous semons les graines d'une agitation séculaire. En Syrie, le gouvernement arabe est en place depuis un an, mais la France refuse de reconnaître la légitimité, et l'indépendance de Faisal. Le 12 octobre, de Damas, Gertrude part pour Alep. Dans chaque pays, elle a rencontré des gens importants pour se faire une idée de la situation. Maintenant, elle rentre chez elle, à Bagdad. Elle écrit son rapport au ministère des Affaires étrangères. Elle signale que le frère de Faisal, Abdullah, a été fait émir d'Irak. Le père de Gertrude a décidé de venir la voir en Mésopotamie. Alors elle part en train à sa rencontre. Il arrive à Bassora le 29 mars 1920. Elle présente l'Irak à son père et son père à l'Irak. Hugues reste un mois. Sir Percy Cox arrive à Bagdad avec sa femme. Gertrude alors les rencontre et elle raconte les sermons enflammés qu'il y a dans les mosquées, le courant extrémiste, la colère de certaines tribus. Les Arabes ont attendu trop longtemps qu'on leur octroie un gouvernement. La situation dégénère depuis 8 mois. On décide alors d'envoyer Sir Cox le 11 octobre 1920. Il descend du train, écoute le « God save the King ». Il est très applaudi car dans son discours, il parle de l'Irak et d'un gouvernement arabe. Bien sûr, les Arabes seront choisis par les Anglais. Sir Percy demande à Gertrude si elle veut rester secrétaire aux affaires orientales. Bien sûr que oui. Alors elle établira la liaison, comme toujours, entre le haut commissaire et le gouvernement arabe. Le gouvernement se réunit le 2 novembre 1920. Gertrude, comme d'habitude, reçoit chez elle quantité d'Arabes qui viennent discuter de la situation. Churchill convoque une conférence au Caire. Il y convie Sir Percy Cox et Gertrude Bell. Elle est le seul membre féminin. La conférence doit régler le sort de l'Irak. Churchill en profite pour visiter les pyramides. Et on a d'ailleurs une photo qui montre Churchill et Lawrence encadrant Gertrude sur des dromadaires. La conférence prend fin le 25 mars 1921. L'Irak va être divisé en trois régions. La région de Bagdad, celle de Bassora et celle de Mossoul. Sunnites, chiites, juifs chrétiens et kurdes seront unis sous un roi chérifien. Ce sera le plus jeune fils de Faisal, qui s'appelle aussi Faisal. Encore faut-il qu'il soit accepté. Il n'est jamais venu en Irak. Il ne connaît rien aux tribus irakiennes. Cependant, il est intelligent. Il demande souvent conseil à Gertrude. Et lors d'une fête, il déclare « Les mots juifs, chrétiens, musulmans » n'ont aucun sens lorsque la patrie est en cause. Il n'y a qu'un seul pays, l'Irak, et nous sommes tous irakiens. Nous pouvons nous réclamer de la même descendance, celle de notre ancêtre Sem. Vous vous rappelez, c'est l'un des fils de Noé, Sem Kam Japhet, hein, qui a donné le nom les Sémites. Il est très applaudi. Par référendum, il devient roi d'Irak. Il est couronné à l'âge de 36 ans. 1922. Gertrude reçoit de mauvaises nouvelles de son père dont les affaires périclitent. Elle garde son poste jusqu'en 1923, date à laquelle Sir Percy prendra sa retraite. Pour l'instant, le roi reconnaît qu'il doit son trône aux Anglais et qu'il a besoin de leur protection. Il dit que s'il se retire d'Irak, ses opposants arabes le renverseront. Donc les Anglais restent, mais les crises se succèdent. En août 1922, premier anniversaire de l'accession au trône de Faisal, le pays est encore divisé sur un traité avec les Anglais. Si le roi le signe, les Anglais se retireront. Winston Churchill promet de faire tout son possible pour faire admettre l'Irak à la Société des Nations. Le 8 octobre 1922, le traité est signé, les Anglais s'en vont. Gertrude aussi, qui va prendre des vacances en Angleterre. Elle trouve la maison changée. Les finances en baisse en ont fait fermer une partie. Alors elle revient en Irak. Mais elle ne va pas bien du tout. Naguère, elle travaillait près de 10 heures par jour. Aujourd'hui, à peine 3 heures. Le médecin qui vient la voir la trouve maigre, affaiblie, au lit, dans un désespoir absolu. C'est la dépression nerveuse. Le dimanche 11 juillet 1926, elle déjeune avec Henry Hobbs et Lionel Smith. Elle revient chez elle. Comme tous les après-midi, la déprime s'abat. Elle travaille lentement. Elle traverse son jardin, elle se couche, elle prend une dose supplémentaire de somnifère, elle éteint la lumière et s'endort pour toujours. Elle allait avoir 58 ans.
خلى لقلبي بالاسرار يبوح قلت له يا قلب جوز عن درب الهوى ما رد لي ثار القلب مذبوح لخلة حلو المعاني وصافة ما بين كل الناس وجه صبوح الطول ميسن والبراء طم مورد وجعود شقر والعيون تفوح لي لخلة حلوة المعاني وصف ما بين كل الناس وجه صبوح الطول ميسن والبراطم موردي وجعود شقر والعيون تفوح يا صاحبي يا يا صاحبي يا صاحبي يكفي هجركم يا منى دمع الهجر عوم سفينة نوح يا صاحبي بدر ليالي فراقنا يفداك مالي هو القلب والروح ليهنو من كان له بيت مشبع ألفين شات وميت مكرة وضوح لسكن ببيت الشعر ومكن طنابه والخيل تصل والدبيش سروح ومهيرة كل السبايا دونها تجمع على جمع الأعاد جموح ونجرني يصوت للخطاطر بالضحى فنجان بنن ريحته بتفوح مدري 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 تاني كيف الليالي تبدلت يا حيف يا عز الشباب يروح لعاد ينفع كثر نظم القوافي وما ينفع العطشان برق يضوح يا صاحبي يفداك مالي هو القلب والروح يفداك مالي والقلب والروح